Mise en onde par René Jantet avec la collaboration de Jacques Vaudou. Prise de son Marcel Ostalier. Ce soir, les flâneries de Léo Ferré.
Eh bien, ce soir, nos flâneries sont assez tardives, exceptionnellement d'ailleurs, car un auguste flâneur du dimanche est à Rome aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est pourquoi Léo Ferré, nous flânons très tard. Eh bien, je vous dis bonsoir maintenant, et je vous demande si vous aussi, vous êtes un flâneur, non pas à Rome, mais à Paris et partout où vous habitez et vivez. Je ne le crois pas d'ailleurs, parce que vous m'avez amené des tas de chansons nouvelles. Vous ne devez pas avoir beaucoup le temps de flâner.
Je vous dis bonsoir moi aussi, et puis, je n'aime pas flâner. Je ne suis pas un flâneur. Je pense que le flâneur est doublé d'un oisif d'abord, et un oisif organisé, intellectuel, n'est-ce pas, qui cherche des trucs dans les magasins, qui cherche des ciels crépusculaires, qui lui rappellent des tas de choses. Moi, je flâne jamais parce que je m'ennuie, j'ai le cafard.
Ah oui, ça vous donne le cafard de n'avoir rien.
Je flâne dans votre émission, c'est ça, oui.
Ça vous suffit. Mais vous n'aimez pas traîner dans les rues, aux terrasses des cafés par exemple, non?
Non. Non, non, je vais jamais au café. Quand je bois à la maison.
Oui.
Mais si je vais au café, c'est triste aussi.
De voir passer les gens désœuvrés, ça vous donne le cœur.
Non, je ne suis pas un cinéaste, vous comprenez. Je ne cherche pas à cadrer des choses dans la rue.
Et est-ce que vous aimez flâner dans votre passé?
Beaucoup, oui.
Avec
d'une façon un peu triste aussi, mais enfin, tout de même, on est tellement à ce moment-là à être triste dans ce passé de 1925.
C'est-à-dire le passé de Monsieur Mon Passé?
Oui.
Eh bien, quittons le passé et revenons tout de suite dans le présent. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, le dimanche, Léo Ferré?
Quand je ne suis pas à votre émission...
Oui, je vous ai gâché votre journée, avouez-le.
Non, non, pas gâché ma journée, non. Quand je ne suis pas à votre émission, je vais en Normandie, oui. À 115 km de Paris, à Verneuil-sur-Avre,
oui.
Où j'ai loué une maison il y a 2 ans. Voilà comment ça s'est passé. J'ai lu des annonces pendant 1 an sur un journal qui ne me plaît pas du tout, d'ailleurs, que je ne lis jamais, mais que j'ai lu pendant 1 an, vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Pour voir des annonces. Et ma femme se moquait de moi, un beau jour, j'ai trouvé une annonce, j'ai trouvé une maison, on est allé, j'ai vu le propriétaire, il était gentil, il est devenu mon ami, et entre-temps aussi, il est devenu mon tailleur.
C'est vrai, voilà. C'est incroyable comme histoire. Et cette maison, je crois que c'est une maison qui a un souvenir, un passé historique chargé et lourd.
Lourd, enfin, je ne sais pas, remarquez que peut-être on raconte beaucoup d'histoires, mais je crois que cette maison a été habitée il y a quelques décades par Louise Collet, n'est-ce pas? Louise Collet qui était une femme...
Une Égérie.
Une Égérie, oui, et paraît-il, n'est-ce pas? Elle aurait été à un certain moment l'Égérie,
oui.
De Victor Hugo.
Oui, de Flaubert, on a dit aussi,
la maîtresse,
je crois. Oui. Et alors Victor Hugo serait peut-être venu passer quelques jours dans ces
oui.
lieux.
Et quelques jours, parce que à ce moment-là, je crois que maintenant, il y avait 1h30 là-bas,
oui.
Sur une puissante voiture.
Très long.
Mais je crois que 2 jours, on mettait.
Et vous mettez Courteline aussi.
Oui, Courteline a habité là quelque temps.
Ça va pas du tout avec Victor Hugo, d'ailleurs.
Non, mais au contraire, moi, je trouve ça très marrant.
Et quel est le style de cette maison? C'est une maison que vous avez laissée comme elle était, enfin.
Oui, moi, je n'y ai pas touché. Ce sont mes propriétaires qui y ont touché, qui l'ont rafistolé un peu. Et c'est une espèce de genre de manoir. Manoir, mettons, pavillon de chasse, sans le confort.
Et je crois que vous l'avez choisi surtout pour vos chiens. Vous passiez après dans cette histoire, car vous menez un petit peu une vie de chien. Tout ce que vous le faites en fonction de vos chiens.
Oui.
Il faut dire que vous avez 3 Saint-Bernard.
Oui, mais je les adore, on les adore. Les chiens, pour nous, c'est à la maison, c'est notre vie, n'est-ce pas? Les chiens passent avant tout. Et je voudrais que tous les gens soient comme moi, parce que on trouve beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur à voir vivre les bêtes qui, heureusement, ne parlent pas. Ça, c'est le grand truc des bêtes.
Mais ils sont expressifs. Vous avez expressif, ne serait-ce que par le poids. Vous avez un vos Saint-Bernard qui a pesé plus de 100 kilos, m'avez-vous dit?
Oui, il a pesé actuellement 100 kilos à peu près, ou 95.
Mais ils sont inoffensifs, ils sont très gentils.
Ils sont très gentils, sauf la nuit.
Oui.
Il y a terreur psychologique, c'est pas.
Ah oui?
Ils ont un aboiement assez considérable.
Et là-bas, est-ce qu'ils sont à leur aise dans cette maison?
Très, parce qu'ils ont 10 hectares de...
Oui, et vous, oui. Vous les faites courir partout?
Non, ils courent pas seuls, parce que je suis obligé d'aller les promener là-bas aussi. Vous comprenez? Et ce sont des chiens qui aiment la compagnie. Alors j'étais content d'avoir tous ces 10 hectares de bois autour de la maison, et puis je suis obligé moi aussi d'aller promener avec les chiens. Mais c'est bien quand même.
Qu'est-ce que vous faites quand vous vous promenez? Je crois que vous avez une passion d'ailleurs, c'est de chercher des trésors, non?
Oui, Je voudrais bien chercher un trésor. Justement, dans cette propriété, il y avait un trou. Un jour, j'ai été qui commence à creuser, il doit y avoir un trésor. Et là, ce trou, je l'ai appris par quelqu'un, c'était une espèce de tranchée qu'on avait fait pendant la guerre contre les avions.
Vous n'avez jamais trouvé de trésor, mais vous en avez cherché même dans les ruisseaux, vous aviez trouvé des paillettes.
Non, moi je suis sûr, oui, des paillettes à la montagne, ça.
À la montagne.
Mais je suis sûr qu'il y a des trésors partout. Je suis sûr qu'il y a des trésors là-dessous.
Et ça vous amuse de chercher un trésor là-dessous, même sous le studio, vous voyez.
Sûrement.
Et vous avez même un coffre-fort dans
votre
maison.
Des louis d'or, des pierreries. Je rêve de trouver un tonneau, vous savez. Un tonneau plein de pierreries comme dans les films de Cécile Bédemille.
Oui, les films de Cécile Bédemille. Et vous avez même un coffre-fort que vous n'avez jamais réussi à ouvrir dans cette maison de Louis Scollet.
Non, non. Mais il ne faut pas trop en parler, comme disait Madeleine tout à l'heure, parce que si on parle du coffre-fort, on va inciter
les cambrioleurs.
Les cambrioleurs à venir. Mais qu'il y a les chiens, ils seront bien reçus.
Oui, j'ai l'impression. Avec ces trois gros chiens, moi j'ai eu très peur en venant chez vous. Et je crois qu'il n'y a pas le confort non plus du tout dans cette maison.
Non, mais il y a l'eau, mais il y a un puits à 10 mètres, et c'est, moi je trouve ça très bien.
Ça vous suffit, vous n'êtes pas pour le confort.
Non. Et tout non, je suis pour le confort, mais enfin, quand il n'y est pas, je m'en arrange.
Oui, mais au fond, vous ne nous arrangez pas tellement de la vie moderne et de la vie, le temps des plastiques, vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
vous ne vous en arrangez pas tellement.
Et non, mais ça m'a permis de faire une chanson.
Exactement. Je crois qu'à Paris, vous n'êtes pas au milieu des plastiques et que vous avez choisi une petite maison bien ancienne, une bonne petite vieille maison.
J'ai pas choisi une maison bien ancienne, j'ai choisi une maison qui fait partie de la zone verte. C'est-à-dire, ça c'est le mot...
Verte, il faut l'enlever.
Poli pour dire, oui, il faut la zone.
La zone tout court.
On appelle ça ceinture verte.
La ceinture verte.
C'est la zone, n'est-ce pas, au milieu des garages. La seule chose désagréable qui est, c'est qu'il y a vraiment... Il doit passer, je parle de 4 ou 5 000 voitures par jour devant la maison. Ça, c'est embêtant. Enfin, on s'y fait. C'est l'exproprié. Un de ces jours, on va nous mettre à la porte.
Et où irez-vous, là? Il y a une petite maison dont on parlait hier. Elle serait peut-être bien dans le bois de Boulogne.
Ah oui, vous l'avez vue.
Oui, elle est extraordinaire.
Elle est toujours fermée, d'ailleurs. Elle est habitée par l'Américain.
Oui, mais non, je crois que c'est la maison d'un garde forestier, mais il ne doit plus y avoir de garde
forestier. Ah, celle-là, celle du garde.
Ah, je pense à la maison du garde.
Ah, mais celle du garde est habitée. Il y a des poules, oui, des chiens.
Ça,
il prend les chiens en pension, d'ailleurs. Et oui, j'aimerais bien, là, évidemment.
Très bien, oui.
Je ferais un peu garde de temps en temps là, pour habiter la maison du gardien. Non, sans costume, je ferais travailler quelqu'un, quoi. Mais ce serait bien, ça.
Mais le métier est agréable.
Le métier est agréable, sûrement. Je les vois, ils se foulent pas trop, c'est bien. Parfait.
Et puis pour vos chiens, ce serait agréable. Parce que pour vos chiens, il faut que vous habitiez toujours près d'un lieu où il y a de la verdure.
Oui, mais les chiens ont leur petite nurse, qui est notre Denise, qui les promène tous les jours, le matin et le soir. Et c'est moi qui les accompagne en voiture, qui les cherche, parce qu'il y en a trois, ils sont gros et trop petites pour les traverser.
C'est pour ça que vous avez une voiture avec un grand coffre arrière. Enfin, c'est pas un coffre.
C'est pas un coffre, c'est un wagon.
C'est un wagon. Vous êtes obligé d'avoir une voiture comme ça pour vos chiens.
Et oui.
Vous êtes toujours posé la question. Qu'est-ce que vous aimez avoir chez vous comme installation, un mobilier? C'est très hétéroclite, hein, vous aimez...
C'est très hétéroclite chez moi, hein.
Oui, mais j'aime ça, moi.
Vous m'avez pas dit,
l'autre jour. Vous m'avez pas dit, non, je vous le dis tout d'un coup, là.
Oui, c'est hétéroclite parce qu'on a des choses comme ça, qu'on a eu par hasard, et puis depuis qu'on gagne un peu plus d'argent qu'avant, de temps en temps, on achète des choses qui nous plaisent, alors c'est aussi bien la Renaissance que... Non, ça s'arrête à la Renaissance, mais, la haute époque, mais le 18e, ça, j'ai horreur de ça, ma femme aussi, alors on s'en arrange. Jusqu'à n'importe quoi, enfin. C'est très moche, n'est-ce pas?
Ah non, ouais. Non, pas, c'est pas moche.
Pas beaucoup de goût, pas beaucoup. Le mauvais goût, mais le mauvais goût,
le
c'est
mauvais
une chose
goût,
tellement...
Oui, non, oui.
Le mauvais goût, c'est très bien. Oui.
Vous avez des aquarelles au mur qui sont tout à fait extraordinaires, qui, elles aussi, ont une histoire absolument invraisemblable.
Oui, je dois à André Breton, un jour, d'avoir trouvé ces aquarelles à la salle des ventes de la
Drouot.
Oui, et... C'est un teinturier sur cuir qui a vécu en Autriche à la fin du siècle, enfin au 19e siècle, et qui pendant 50 ans, c'était un peu un peintre du dimanche.
Oui.
Il flânait à sa façon, vous voyez où. Et il a fait 350 ou 400 aquarelles. C'est quelque chose, je crois que c'est le plus grand animalier qu'on ait vu. Et puis alors, en plus, dans ses paysages, c'est une préfiguration du Doyen Rousseau. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pas connu du tout, puis tout le monde s'en fout, mais ça fait rien.
Et puis alors, c'est de l'art involontaire, parce que lui, il faisait des planches vraiment... d'histoire naturelle, il ne pensait certainement pas faire de l'art.
Je ne sais pas, en tout cas, malgré lui, parce que quand il met les paysages...
Les couleurs sont magnifiques.
Les paysages, il y a une espèce de tristesse, je sais pas, c'est pas mal, quoi. Non,
est-ce que vous êtes comme ce teinturier? Est-ce que vous avez un violon dingue?
Moi, j'ai un musicien a toujours un violon dingue. Oui. C'est l'imprimerie.
Oui, c'est assez surprenant, mais c'est l'imprimerie. C'est encombrant, vous avez toute une machinerie.
Non, c'est pas encombrant, mais c'est sale.
C'est sale, oui.
Oui, parce que l'encre, c'est quelque chose de terrible.
Et alors, toutes ces chansons que vous avez là, d'ailleurs, c'est vous-même qui les avez tirées.
Oui. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand on voyait une de mes chansons, j'avais oublié les bécards. Alors, comme c'est tiré à 200 exemplaires, maintenant, il va falloir que je corrige 200 exemplaires avec des bécards, voyez-vous. C'est un peu le drame de l'imprimerie à la maison, ça aussi, oui.
Et bientôt, vous allez pouvoir faire des choses très compliquées en imprimerie. Ah, parce que pour l'instant, c'est encore en une couleur, mais vous, bientôt, vous tirerez en plusieurs couleurs.
Oui, ce qu'on appelle la quadricromie.
C'est ça.
Mais sûrement.
Vous ne reculez devant rien.
Oui, en quelques années.
Quand vous n'êtes pas dans votre maison à Paris ou dans votre maison de Normandie, je crois que vous avez un troisième lieu de séjour, de vacances à ce moment-là.
L'été, nous avons un chalet, nous avons loué un chalet de vaches à 1200... Ah non, non, à 2600 mètres.
Ah oui, c'est très haut déjà.
Et au-dessus de Modane, près de la frontière italienne.
Et là encore pour les chiens, non?
C'est formidable. Jamais un copain n'est monté nous voir là-haut. Il faut croire qu'on ne nous aime pas beaucoup. Mais c'est un peu haut, ils ont peur d'avoir mal au cœur. Ce qui est idiot parce que l'altitude ne fait rien à faire. Moi j'ai ma petite fille qui vient, on monte prendre les Edelweiss à 3000. Et vous savez que les Edelweiss, il ne faut pas se casser la gueule pour voir les Edelweiss.
Non, il y a des crevasses, il y a des avalanches.
Non, c'est pas vrai du tout. Il y a de beaux champs d'Edelweiss, vous cueillez ça comme des poireaux. Il faut le dire aussi parce qu'on raconte beaucoup d'histoires.
Beaucoup de poésie, mais c'est plus simple que ça.
Les héros de l'Edelweiss, n'est-ce pas?
Et là-haut, alors vous n'y allez pas en voiture, vous y allez sac à dos?
On va en voiture jusqu'au village, et puis sac à dos, mais alors c'est un vrai Golgotha.
Oui.
Le vrai Golgotha, vous savez qu'il y avait 400 mètres.
Oui.
Le Golgotha de l'an 1, n'est-ce pas? Mais l'autre, de l'an 33, pardon. Celui de là-haut, c'est terrible parce qu'il y a une dénivellation terrible. On monte de 1800 à 2006, et ça en peu de kilomètres, quoi, parce qu'en montagne, on ne compte pas avec les kilomètres.
Et vos chiens sont heureux là-haut?
Oui,
parce que les Saint-Bernard, ils se retrouvent chez eux.
Oui, comme dit Madeleine, et ça c'est vrai, ils sont lyriques. Arrivés là-haut à 2000-2002, au moment où il n'y a plus d'arbres, n'est-ce pas? Ils sont lyriques, et ils sont comme un fou un peu, quoi.
Est-ce qu'ils ne sont pas malheureux de n'avoir personne à sauver?
Ah, mais si vous mettez par terre, ils viennent vous prendre gentiment comme ça, ils veulent vous tirer, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qui leur reste, l'espèce de truc de sauver les gens.
Je crois que vous m'avez dit, lorsque vous les emmenez au bord de la mer, à ce moment-là, ils se mettent à sauver tout le monde.
Non, et puis alors, ils se perdent aussi, car l'année dernière, nous étions en Bretagne, ils étaient sur un rocher, et la nuit, il y avait la marée qui avait monté, ils ont été prisonniers sur le rocher, n'est-ce pas? Alors on avait la trouille, parce que sans des Saint-Bernard, on avait peur qu'ils nagent pas, ils ont nagé comme un seul chien, ils sont revenus, c'était formidable.
Et vous leur avez donné une goutte de cognac ensuite, après, non?
Non, non.
Est-ce que vous aimez les voyages?
Non.
Non? En dehors de vos maisons où vous allez chaque année, vous retournez toujours au même endroit?
Je retourne toujours au même endroit, mais je n'aime pas les voyages.
Mais vous aimez les ports, je crois, c'est-à-dire que vous aimez l'invitation au voyage.
Oui, j'aime les voyages quand c'est très près, quand il y a un dépaysement à proximité, vous comprenez? Ça me plaît alors.
Oui, alors ça, je vois le genre de dépaysement que vous aimez, car il y a un pays dont vous m'avez beaucoup parlé, vous en avez visité plusieurs, mais il y en a un qui vous a beaucoup frappé, et on pourrait peut-être s'embarquer pour ce pays par le Havre, grâce aux amoureux du Havre.
Si vous voulez.
Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu, ils s'aiment sans s'en faire, comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. J'irai en Angleterre pour voir les grands bateaux qui font le tour de la terre comme le font les petits oiseaux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. La 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 la.
Pourquoi aimez-vous tellement l'Angleterre, Léo Ferré? Puisque nous sommes embarqués maintenant par le Havre, nous avons débarqué, mettons tout de suite à Londres, en sautant les obstacles.
J'aime beaucoup l'Angleterre, et ça je vous dis vraiment la vérité, parce que c'est un dépaysement total à 2 heures de train de Paris, 2 heures de train avec le bateau, quoi.
Oui, parce que
et
le
parce
train,
que les Anglais, je reviens, je m'excuse.
Oui.
Je reviens toujours sur la
même question. Vous êtes vivement en Angleterre, oui, tout de suite.
Les Anglais aiment beaucoup, et particulièrement, et tous, dans la rue, dans le métro, partout, les chiens. Voilà.
Ah oui, alors ça, on retrouve toujours votre amour des animaux. Et d'ailleurs, la Société Protectrice des Animaux Anglais, c'est quelque chose de très puissant. Hein.
Ça, oui, beaucoup plus puissante qu'ici.
Et vous avez été frappé par des tas de choses en Angleterre pour les chiens, d'ailleurs. On leur donne à boire, ils ont des fontaines spéciales, ils ont des descentes spéciales dans le métro.
Oui,
ils ont...
des descentes spéciales dans le métro, car l'escalier automatique risque de leur prendre les pattes, vous voyez, si on pense bien aux chiens là-bas. Et un jour, nous avions acheté un chien là-bas, qu'on a perdu d'ailleurs. Ma femme s'est vue offrir la place par quelqu'un dans le métro, quelqu'un qui voulait lui donner la place pour le chien. Je vous jure que c'est vrai. Eh bien, ça, c'est pas mal.
Oui, et, oui, ça je vous reconnais.
Le chien s'appelait Samy.
Mais je crois que vous aimez l'Angleterre encore pour des tas d'autres raisons. Je crois que vous aimez Londres pour cette atmosphère de port, enfin, pour l'ambiance de l'Angleterre, les brumes et tout ça.
Oui.
Et vous n'avez...
Oui, la Tamise, les ports, c'est gigantesque, c'est extraordinaire. Les ports, ça j'aime beaucoup. Ça fait penser au voyage, mais on part pas, on regarde.
Vous avez été visiter d'ailleurs un lieu typiquement anglais, sinistre, mais certainement très beau, je ne le connais pas. C'est là où Emily Bronte a songé, où les sœurs Bronte ont songé, aux Hauts-du-Hurlevent, où ils ont vécu, je crois, d'ailleurs.
Mais elles ont vécu pas trop loin des Hauts-du-Hurlevent. Nous sommes allés là-bas 2 fois en 10 jours. C'est un paysage extraordinaire, vraiment, avec des bruyères, et le vent hurle littéralement, vraiment, et ça fait très peur, mais c'est merveilleux, et je pense que, on m'a dit que le film des Hauts-du-Hurlevent, qui était un film admirable, avait été tourné en studio, je le regrette.
Oui, mais ça c'est souvent comme ça, vous savez, en général, on tourne toujours tout à côté des endroits les plus beaux.
Oui, c'est toujours comme ça.
Et sur l'Angleterre, qui vous a décidément inspiré beaucoup, un poème que nous pourrions extraire maintenant de Poète vos papiers, et que Madeleine Ferré, qui est venue ce soir, pourrait nous lire. Pour rester dans l'ambiance de l'Angleterre, nous pourrions peut-être maintenant passer une de vos nouvelles chansons, puisque j'en parlais tout à l'heure. Vous avez profité de votre séjour dans votre maison normande, qui vous inspire décidément beaucoup, et inspiré par Victor Hugo et d'autres poètes, c'est Baudelaire qui vous a séduit là-bas.
Oui, mais je crois pas qu'une maison ou un paysage inspire particulièrement un poète ou un musicien. Je pense qu'il trouve un endroit peut-être favorable au travail, parce qu'au fond, je travaille aussi bien dans le bruit de Paris, vous savez. Mais là-bas, évidemment, c'est tellement calme qu'on a peur du silence, alors je fais beaucoup de bruit avec le piano.
Et vous avez composé, sur un poème de Baudelaire, Brumes et pluies, une chanson nouvelle qui est parmi 12 nouvelles chansons sur les poèmes de Baudelaire.
Oui.
Bien, nous allons écouter maintenant cette chanson avec un accompagnement d'Onde Martenot. Vous avez composé, parmi d'autres chansons sur les poèmes de Baudelaire, une chanson sur les hiboux de Baudelaire. Je crois d'ailleurs que les hiboux ont joué un rôle dans votre vie.
Oui, nous avons eu un hibou l'année dernière, 2 mois, il est mort malheureusement, car les hiboux sont des petits animaux d'exception, vraiment, au contraire de ce que les gens pensent.
Et ce hibou était tout à fait apprivoisé, je crois qu'il vivait enfin avec vous comme un chat.
Il est comme un chat, exactement. C'était la terreur des chiens, car les chiens avaient peur du hibou.
Et vous le nourrissiez facilement, c'était pas trop difficile?
Très difficile, on n'avait pas de souris vivante pour lui donner, c'est de quoi il est mort d'ailleurs, car il ne pouvait plus, ce phénomène de déglutition, de physiologie.
Et vous regrettez votre hibou. Mais je crois que nous allons revenir d'Angleterre et nous allons faire d'autres voyages une autre fois. Nous aurions des tas d'autres sujets aujourd'hui. Seulement, nous sommes un petit peu courts de temps puisque nous avions les flâneries de Rome. Et j'aurais aimé vous faire parler de vos lectures. Par exemple, je crois que vous aimez passionnément lire les dictionnaires, les encyclopédies, les livres de Buffon, La vie des abeilles, des
ouvrages. Buffon, grand génie, Buffon, très grand génie.
Nous pourrions faire toute une émission là-dessus. Mais nous allons terminer par un dernier voyage, encore un voyage inspiré par un port, par Marseille cette fois-ci. C'est encore une nouvelle chanson, je crois.
C'est un voyage en chanson. Java partout.
Rien que des grues qui font le pied de grue sur les deux coulées quais. Si t'as pas ton ticket, t'as plus qu'à te foutre une tringle. Pour danser la Java des buffets à l'endroit, à l'envers, à Londres ou bien envers, pas besoin d'être bilingue. Mais y'a qu'une manière de causer ma chère.
La beauté!
Vieux mouton d'Australie, beau matelas de Paris, fil ta laine. À
Marseille à midi, un cargo m'a souri pour la semaine. Il s'en va, Agara. Dans les bars de Java, les bars de Zanzibar, au sud de la rue chez moi, y'a de la Java qui mousse. Dans les yeux des inconnus qui tanguent dans la rue, il y a des filles nues qui s'y regardent en douce. Mais y'a qu'une manière, passer ma chère,
la monnaie.
Les chintocs, les ricains, les frisés, les bouquins, ils t'attunent. À Marseille, sur le quai, y a une fille qui s'ouvrait sous la lune. C'est comme ça, la Java. Rien que des phonos qui font les manchots dans les boîtes ou sans boîte, tant pis loulou en boîte, les anges de la musique. Et ces phonos vrais ou faux, ça va jusqu'au moment où ça ne va plus, car il faut ça pour faire la mécanique. Et puis la manière de glisser ma chère,
la monnaie.
Paris à Mimi qui a remis son pinceau dans le commerce pour jouer de la Java, de la Java, de la Java.
Merci Léo Ferré, merci Louis Guy aussi d'être venu en spectateur ce soir et en flâneur, et bonsoir. Bonsoir Léo Ferré.
Bonsoir.
C'était transmis en direct du studio 26, le flâneur du dimanche, une émission de Michel Pollack présentée par l'auteur, mise en onde par René Jantet avec la collaboration de Jacques Vaudou. Prise de son Marcel Ostalier. Ce soir, les flâneries de Léo Ferré, accompagnées par Jean Cardon, Barthélémy Rosso, Freddy Valta et avec Madeleine Ferré.
Bon,